Et oui, vous êtes sur choc.ca pour une nouvelle édition des Apatrides anonymes en ce 2 octobre. L'émission d'aujourd'hui va être un petit peu plus courte parce que Mathieu et moi sommes en duo. Mais inquiétez-vous pas, on vous a préparé un bon tour des actualités comme on est capable de le faire, hein, les actualités d'ici et d'ailleurs, en lien avec les enjeux migratoires, le racisme, les droits de la personne, l'extrême droite et les questions qui touchent les peuples autochtones. Aujourd'hui, on va se promener un peu partout dans le monde, entre autres en Grèce, en Espagne, en Libye, en Palestine. Mathieu, qui est en régie actuellement, toi, tu vas nous parler, tu vas nous donner des nouvelles un peu passées sous silence à propos du génocide en cours à Gaza, mais aussi concernant les mouvements de solidarité d'ici et d'ailleurs et des efforts pour les faire taire.
Oui, tout à fait. Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir à toi.
Oui, je parlais de différents... Oui, on va aller en Italie, on va venir ici. On va aller aussi se promener dans ce coin-là, au Moyen-Orient. Et puis, je vais parler aussi de... Ça, c'est des sujets un peu plus entendus dans les médias les derniers jours, mais les dérives un peu sécuritaires au provincial, au fédéral, particulièrement au Québec. Et je vais parler aussi dans pas très longtemps d'enjeux d'immigration Québec-Canada. Il y en a pas mal là, qui s'accumulent.
Oui, je pense que tu vas surtout aussi nous parler en lien avec les travailleurs, travailleuses, migrantes temporaires.
Exactement, en partie, oui.
Super. Ben écoute, je vous reviens dans quelques secondes pour les actualités grecques et espagnoles. Depuis cet été, le gouvernement grec multiplie l'adoption malgré les critiques de lois pour restreindre l'immigration. La plus récente a été adoptée début décembre. Elle vise particulièrement à durcir les sanctions à l'encontre des demandeurs d'asile déboutés et à accélérer les expulsions des personnes en situation irrégulière. La loi, d'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle introduit le délit de séjour qui vise les personnes déboutées qui quittent pas le territoire. Et donc, ce nouveau délit-là est passible de peine de prison de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 euros. C'est quand même pas mal de bidou pour des personnes qui en ont pas bien. La nouvelle législation prévoit aussi des retours forcés pour les demandeurs d'asile déboutés qui refusent le retour volontaire, on met toujours cette expression-là entre guillemets, dans leur pays ou dans un pays tiers sûr. Et puis, dans l'attente de leur départ, ces personnes-là vont être placées en détention administrative. La loi supprime aussi la possibilité pour les demandeurs d'asile déboutés d'obtenir un permis de séjour après 7 ans de résidence en Grèce, ce qui existait. Des peines d'au moins 3 ans de prison sont prévues pour les demandeurs d'asile soumis à des décisions de retour puis qui reviennent en Grèce sans papier. On pouvait s'y attendre. L'ensemble des partis d'opposition de gauche a voté contre ce texte. Les socialistes du parti PASOK ont qualifié la loi d'illégale, de chaotique et d'inacceptable. Et les communistes du KEE, eux, l'ont qualifié de raciste et de honteuse. L'autre loi dont je voulais vous parler, c'est la suspension pour une période de 3 mois de l'examen des demandes d'asile provenant des pays d'Afrique du Nord. Cette mesure-là a aussi évidemment été critiquée. Elle a été adoptée début juillet après l'arrivée de milliers de personnes en Crète. Je pense qu'on vous en avait parlé un peu là, au début de l'automne. La Crète qui est une des îles les plus touristiques du pays. Il y a des centaines de migrants débarqués de Libye qui ont, depuis l'adoption de cette loi-là, été placés en détention en vue de leur expulsion. Plusieurs organisations internationales, dont le HCR, le Conseil de l'Europe ainsi que plus d'une centaine d'ONG qui ont dénoncé la suspension de l'accès à l'asile en Grèce en estimant que cette loi-là était contraire au droit international et européen. Et puis, à la fin août, la justice grecque a refusé d'autoriser l'expulsion de 4 exilés soudanais qui étaient arrivés en Grèce et qui avaient été empêchés d'y déposer une demande d'asile, ce qui est effectivement contre le droit... Le droit d'asile.
Oui. Le droit international.
Oui, c'est ça. Donc, les juges ont pris cette décision-là à la suite d'un recours en référé du Conseil grec pour les réfugiés contre, justement, cette loi-là. Donc, on va maintenant se déplacer à l'ouest complètement de la Méditerranée, en Espagne, un pays qui, contrairement à la Grèce, tient une sorte de double discours sur l'immigration, en encourageant l'immigration de travail sur son territoire national, d'une part, mais dans le même temps, en multipliant aussi les accords sécuritaires avec des pays de transit et de départ pour limiter les flux migratoires à ses frontières. Ce qui est arrivé, c'est que le think tank de gauche Terra Nova a publié à la fin août un rapport qui étudie la politique migratoire du pays, qui qualifie d'exception espagnole, puisque c'est l'un des rares pays de l'Union européenne à avoir adopté une politique migratoire, disons, d'ouverture, si on la compare aux autres, puis qui s'est notamment traduite par des campagnes de régularisation de personnes migrantes. Ce qui fait qu'en 2025, il y a près de 19% de la population en Espagne qui provient de l'étranger. Info Migrants s'est entretenu avec Tania Racho, qui est co-autrice du rapport. Et ce qui est intéressant, là, je vous ferai pas là, toute la nomenclature du rapport, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pistes pour contrer le discours ambiant et les idées reçues sur l'immigration, puis qui font référence vraiment directement à ce qu'on entend de plus en plus au Québec en cette période année préélectorale.
Oui, je vais en parler tantôt, Marie-Ève.
Oui, j'imagine, c'est ça, mais tout est dans tout, tu vas voir. Vous allez voir, l'émission, on fait des liens, là. D'abord, sur le plan économique, évidemment, l'immigration a un effet bénéfique sur le PIB, même si c'est pas le seul facteur. En Espagne, tous les 6 mois, le PIB du pays augmente, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. En 2024, le produit intérieur brut de l'Espagne a atteint 3,2%, soit un des plus hauts taux de croissance de l'Union européenne, même que début 2025, l'Espagne était le seul pays européen à avoir augmenté son PIB. Et pourquoi c'est bénéfique? Parce que l'immigration compense la faiblesse démographique. Mm-hmm. Le déclin de la population active a été compensé, donc dans un pays où, comme ici, les départs à la retraite et le faible taux de natalité des dernières décennies ont créé une grosse pénurie, pas d'emploi, mais de main-d'œuvre, c'est plutôt l'inverse. Puis on parle que dans certains secteurs, en Espagne, la part des travailleurs étrangers à l'économie du pays représente près de 50% de la main-d'œuvre. Le rapport rappelle aussi que le discours, justement, du gouvernement par rapport à l'immigration influence directement la perception qu'en a la population. Bon, vous me direz, c'est rien de nouveau, mais quand même, je peux vous donner un exemple. En octobre dernier, le président Pedro Sanchez a voulu, lui, déconstruire les stéréotypes et les fausses affirmations sur les migrants, comme quoi, entre autres, ils profitent du système, en rappelant que, et là, je le cite, « ils versent 10% de leurs revenus à la sécurité sociale et ils utilisent les services publics et les prestations sociales 40% moins que ceux nés en Espagne. »
Mais sont plus jeunes, hein, c'est sûr. Hein?
Aussi, ça. Oui. Donc, la façon, on voit bien là, que la façon dont parle le gouvernement espagnol des personnes migrantes est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre ailleurs en Europe ou ici. Puis, il faut aussi rappeler que la plus importante régularisation, soit 600 000 sans-papiers régularisés en 2005, a été le résultat d'une initiative populaire issue d'un mouvement citoyen. Mm-hmm. Donc, ça a vraiment comme une incidence sur la perception, comme je le disais, de la population. Et contrairement aux idées reçues, toutes ces vagues de régularisation-là en Espagne n'ont pas créé d'arrivée massive de migrants ni d'appel d'air. Puis 20 ans plus tard, ça ne semble pas avoir changé non plus. Donc, je vous invite à aller lire le rapport qui est très intéressant. Il s'intitule « Politique migratoire, l'exception espagnole ». Et c'est disponible sur le site de Terra Nova. Vous tapez le titre plus Terra Nova, c'est assez facile à trouver. Sur ce, avant d'aller retrouver Mathieu justement pour parler du discours ambiant ici, mm-hmm. on va aller en musique avec le trio Vancouverois. Puis là, vous m'excuserez, je suis pas sûr de comment prononcer le nom. Numbe Dame. Numbdame. Puis c'est entrecoupé de plusieurs points d'interrogation. Donc, on va entendre la pièce 8 Hours on the Floor, qui est tiré de leur album paru cet été et qui est intitulé « Give us $10 million to kill arms dealers ».
Okay.
Quand même pas pire.
Ouais.
Et qui figure au palmarès international de choc.
It's so easy to spend our lives desperate for more, to worry
Puis Mathieu, t'as aimé ça?
Oui, c'est très bon. Groupe de Vancouver, un peu punk, indie et quasiment métal un peu dans l'ambiance, dans l'approche. C'est très bien.
Alors, comment se porte le discours ambiant sur l'immigration?
Ben écoute, je pense que tu connais la réponse. Je vais parler de quelques mesures, par exemple, là, qui ont été décidées dans les derniers mois. Et puis les consultations sur l'immigration qui ont commencé hier au Québec. Puis tantôt dans les dérives, ben, je pourrais continuer sur le discours ambiant, comme tu dis. Premièrement, ben, la presse canadienne a appris qu'en novembre dernier, 2024, on ne le savait pas, le fédéral a suspendu l'approbation des demandes de réinstallation de réfugiés déposés par des organismes communautaires ou des groupes de 5 personnes souhaitant faire venir au Canada une personne d'un camp de réfugiés. Une décision qui a pris les défenseurs des réfugiés au dépourvu. Le gel, qui est en vigueur jusqu'à la fin de 2025 pour l'instant, a freiné l'acceptation de toute nouvelle demande de parrainage, ce qu'on appelle le parrainage privé. Le quota pour de nouvelles demandes des signataires d'entente de parrainage a également été réduit. Ce gel pourrait être prolongé jusqu'à la fin de 2028 si Ottawa souhaite éliminer son arriéré de demande.
Quand même, 2028, c'est pas demain?
Non, exactement. Non, c'est vraiment... ça a commencé en 2024, puis on vient de le savoir officiellement. Le Conseil canadien pour les réfugiés a déclaré avoir exhorté la ministre Diab à reprendre l'acceptation des demandes, même avec un plafond limité, au lieu de prolonger le moratoire soudainement apparu donc l'automne dernier. Le Conseil craint que les bénévoles et les groupes communautaires perdent l'habitude de parrainer une famille ou une personne tous les 2-3 ans si le programme reste inactif trop longtemps. Le Conseil affirme également avoir entendu que l'arriéré n'a pas été réduit de manière draconienne depuis l'automne dernier, lorsque des dossiers internes faisaient état d'environ 100 000 réfugiés en attente de traitement de leur demande de parrainage privé au Canada. À l'époque, le traitement de chaque demande prenait 39 mois. Ça, c'est toujours à l'automne dernier, mais on n'a pas les nouveaux chiffres. On sait que le gouvernement Carney s'est engagé à réduire l'immigration dans son ensemble. Le ministère réduit ses effectifs. Donc, le Conseil a demandé au gouvernement de porter de 9 à 15 la part actuelle de l'immigration consacrée à la réinstallation humanitaire, compte tenu du nombre historique de personnes actuellement déplacées un peu partout sur la planète. Aussi au fédéral, des programmes de formation professionnelle dans des secteurs pourtant en forte pénurie de main-d'œuvre ne permettront plus aux étudiants étrangers d'obtenir le fameux permis temporaire leur permettant de travailler ici après leurs études. Alors que le fédéral veut diminuer le nombre d'immigrants temporaires, les critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme, le PTPD, ont été modifiés en novembre dernier, encore une fois, et moins d'immigrants y auront accès. Ces changements ne touchent pas les programmes des universités et seulement quelques programmes collégiaux, mais affectent la majorité de ceux de la formation professionnelle, donc les DEP, par exemple.
Ouais.
Sur 188 programmes de formation professionnelle, au moins 100 ne donneront plus accès au fameux PTPD,
C'est presque la totalité.
Ben, c'est une bonne majorité, ça tout à fait. En juin dernier, la liste des programmes de la formation professionnelle qui ne donneront plus accès au PTPD a encore été modifiée et elle pourrait l'être à nouveau au début de 2026, donc c'est un peu le chaos là-dedans aussi. Sinon, ben, je ne voulais pas passer sous silence cette nouvelle. La multinationale française Newrest procédera fin octobre au licenciement de plus de 500 travailleurs qui œuvraient dans ses installations à l'aéroport de Dorval. Parmi eux, une centaine d'immigrants temporaires pourraient perdre leur statut et n'avoir d'autre choix que de retourner dans leur pays, de rentrer. Selon la CSN, les licenciements massifs seraient dus au fait qu'Air Canada a décidé de rompre ses liens d'affaires avec la compagnie française pour se tourner vers Gate Group, une société suisse.
On parle qu'est-ce que ça fait, ça?
Ça fait des repas pour les avions. Okay. Ouais, c'est ça, c'est le contrat exclusif pour Air Canada. Serge Monette, président de la Fédération du commerce de la CSN, déplore que la compagnie Newrest semble abandonner les travailleurs migrants à leur sort. Ils souhaiteraient à tout le moins que ces travailleurs temporaires puissent prolonger leur statut et être replacés ailleurs au Québec. On veut voir s'il n'y a pas une possibilité de faire des exceptions et de transformer leur permis fermé en permis ouvert, demande-t-il. En plus, la multinationale française est visée par une action collective pour des pratiques alléguées d'exploitation des travailleurs migrants, on avait déjà parlé à l'émission, qui auraient exercé leurs fonctions dans des conditions abusives et sans permis de travail. Une entente à l'amiable de 2,3 millions de dollars présentée en cours à la fin du mois d'août est toujours en attente d'approbation du juge, donc une entente entre les travailleurs et la compagnie. Sinon, je vais finir avec les consultations sur l'immigration qui ont été suspendues en raison de la prorogation de la session parlementaire à Québec. Donc, les consultations sur la planification de l'immigration ont repris hier à Québec. Avec du retard, les audiences qui vont s'échelonner sur moins de semaines que prévu à cause du changement de début de session ne permettront pas de faire entendre autant d'organismes et d'intervenants puisque la loi prévoit que la planification doit être présentée le 6 novembre. Bientôt. Et il y aura même eu 144 mémoires qui ont été déposées par différents organismes, qui ne seront pas tous reçus, évidemment. Les divers scénarios de cette immigration proposés par le ministre Roberge sont déjà sur la table. Pour la première fois, le gouvernement du Québec introduit des cibles pour l'immigration temporaire et propose pour 2029 une réduction de 13 % du nombre de titulaires de permis d'études et de travail par rapport à 2024. Quant à l'immigration permanente, le gouvernement de la CAQ propose trois scénarios. 25 000, une diminution de 50 % par rapport à la moyenne des dernières années. 35 000, une réduction de 30 % ou 45 000, une réduction de 10 % Actuellement, en 2025, il y a 66 000 personnes qui vont avoir leur résidence permanente au Québec. Donc, ben voilà, c'est cela, Marie-Ève. Ouais, c'est ça. C'est...
Bon, ben écoute, on va te laisser reprendre ton souffle.
Oui, oui, oui.
Deux, trois notes de musique, puis on revient avec les dérives sécuritaires.
Oui.
C'est bon?
Je me lance, je reviens sur le congrès de la CAQ en fin de semaine. Les délégués ont opté pour l'interdiction aux personnes, aux gens, en tout temps, de cacher leur visage dans l'espace public. Ils sont donc allés au-delà de la proposition initiale qui concernait les manifestations avec le visage masqué. On sait qu'un futur projet de loi censé renforcer la laïcité et interdire les prières de rue et dans les cartons en plus. Puis il y a le projet de loi 94 qui a été ramené. La nouvelle session qui avait été qui était mort au feuilleton à la fin, avec la fin de l'autre session. Ça, c'est sur la laïcité dans les écoles, c'est que c'est toujours là. Les délégués ont aussi voté pour la création de zones tampons afin d'éloigner les manifestants de certains lieux dits sensibles, comme les écoles, les lieux de culte et les bureaux de circonscription. Ça, je l'avais pas vu venir. Les caquistes veulent également sanctionner la possession d'objets dangereux lors de rassemblements et interdire les campements sur des lieux publics ou privés comme les universités. Subtil.
C'est subtil, oui, c'est ça j'allais dire aussi.
Ben, la Ligue des droits a pris connaissance de certaines résolutions limitant l'exercice du droit de manifester et dénonce que celle-ci suscite de nombreuses réactions d'inquiétude de la part de beaucoup d'organisations, entre autres communautaires, qui observent depuis déjà plusieurs années un rétrécissement des espaces de contestation sociale. Je cite Linda Kellil de la Ligue des droits et libertés. Des gouvernements précédents ont tenté en vain de limiter le droit de manifester pour étouffer la contestation sociale. Cela n'a pas fonctionné. La population a défié les interdictions. Les tribunaux les ont invalidés par la suite. Donc, on ne devrait pas rejouer dans ce même film en 2025.
Qu'on appellerait le scénario 2012.
Exact, par exemple. Marie-Ève, ben oui, c'est même mentionné dans le communiqué de la Ligue. T'es pas mal bonne, tu l'as pas lu.
Non.
Sinon, ben, on s'attaque aussi aux organisations syndicales, hein, évidemment, c'est toujours facile. Les neuf principales organisations syndicales québécoises montent au front pour dénoncer la réforme du régime syndical envisagée par Québec. Le ministre du Travail, notre préféré, Jean Boulet, a dit avoir l'appui des syndiqués pour faire le ménage dans la gestion interne des syndicats. Je sais pas où il a pris ses... Je lui ai fait un sondage, je pense pas. Selon un document révélé récemment, Jean Boulet voudrait notamment rendre une partie des cotisations syndicales facultatives lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour défendre directement les droits des travailleurs. Ainsi, les syndiqués pourraient éviter de payer des cotisations qui serviraient, par exemple, à financer des contestations judiciaires ou des campagnes publicitaires. il cite l'exemple de la contestation de la loi sur la laïcité par la FAE, où l'appartenance de syndicats à des mouvements sociaux ou des mouvements politiques. C'est vraiment bizarre. Ensuite, il cite le sentiment d'opacité dans la gestion des cotisations syndicales et sa volonté d'obtenir pour les membres une plus grande imputabilité et transparence. Troisièmement, il évoque les dépenses déraisonnables qui ont été réalisées dans le passé par certains dirigeants syndicaux. Et quatrièmement, il déplore une accessibilité à géométrie variable pour les syndiqués lorsque, par exemple, des votes se terminent tard en soirée, voire la nuit, ou à l'issue d'une assemblée qui dure plusieurs heures. Mais ça, je pense qu'il ne sait pas qu'il y a des corps de métier qui travaillent 24 heures sur 24.
Non.
Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas saisi. Sinon, au niveau de la défense, après les milliards de dollars pour la filière batterie, les Québécois doivent s'attendre à une série d'annonces de subventions pour l'industrie de la défense et de la sécurité, notamment pour la production d'armes. Les entreprises intéressées ne s'en cachent même plus. De grandes compagnies, mais aussi beaucoup de PME, sont attirées par les centaines de milliards de dollars supplémentaires que le Canada et ses alliés ont promis d'ajouter dans leurs dépenses militaires. D'ici avril 2026, le Canada prévoit ajouter 9 milliards de dollars à ses dépenses militaires. Et dans les années suivantes, le budget sera multiplié par 3 pour atteindre plus de 100 milliards. Mark Carney s'est aussi engagé à atteindre d'ici 2035 la nouvelle cible de 5 % du PIB pour l'OTAN. L'Union européenne a l'intention d'investir 1 250 milliards pour renforcer la défense de ses pays membres. C'est énorme. Investissement Québec a modifié ses règles pour permettre un soutien public à la production militaire, ce qui n'était pas possible auparavant. La Caisse de dépôt fait la même chose et les institutions financières canadiennes sont aussi engagées dans cette mouvance-là. Le Canada vient d'ailleurs de signer un partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne en juin. La PDG d'Investissement Québec s'est d'ailleurs rendue à Londres récemment avec 40 entreprises québécoises pour un salon sur la défense. Au fédéral, sur la répression, on y va aussi. Le gouvernement libéral a présenté un projet de loi visant à créer 4 nouvelles infractions criminelles liées à la haine. Le ministre de la Justice, Sean Fraser, a affirmé que le projet de loi vise à créer de nouvelles infractions quant aux crimes d'intimidation et d'entrave à l'accès aux lieux de culte, aux écoles, aux centres communautaires, ainsi qu'aux autres lieux majoritairement utilisés par un groupe identifiable. Ça comprend les résidences pour aînés, par exemple.
Okay.
Ce projet de loi ne créerait pas de zone tampon pour interdire les manifs, mais indiquerait clairement où se situe la limite. Ces zones doivent être établies, comme j'ai dit tantôt, par les provinces et les municipalités.
Ouais, ouais, ouais.
Le projet de loi doit s'accompagner de modifications au Code criminel canadien visant à établir une définition de la haine et à clarifier si un comportement constitue ou pas un crime haineux.
Ça va être beau, ça.
Basé sur une définition de la Cour suprême, mais enfin, ça va être beau. Fait que l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique a déclaré que le projet de loi constitue une attaque contre la liberté d'expression. Je les cite. Cela créerait un effet dissuasif susceptible de limiter la capacité des citoyens à manifester et à exprimer leur désaccord, pourtant nécessaire au bon fonctionnement d'une démocratie. La nouvelle infraction d'intimidation est beaucoup plus large que les interdictions existantes et pourrait criminaliser les manifestations pacifiques simplement parce qu'elles sont perçues comme perturbatrices, a déclaré l'Association canadienne des libertés civiles, une autre association. La peine maximale prévue par la nouvelle loi serait de 10 ans d'emprisonnement.
Ben, quand même.
Quand même, hein? L'association canadienne a affirmé que le projet de loi pourrait affecter des dizaines de milliers d'espaces communautaires à travers le pays qui pourraient être des cibles, par exemple.
Oui.
Il existe toutes sortes de raisons tout à fait légitimes d'organiser une manifestation devant un édifice religieux ou un centre communautaire. Il conclut là-dessus. Il me reste-tu un peu de temps, Maria?
Oui.
Oui. Je parlerai pas du projet de loi C2, hein, au niveau des frontières, on en a parlé déjà, mais il y a un bon article dans Pivot du 24 septembre qui s'appelle « Les nouvelles réalités de la militarisation frontalière ». Je vous en ai un extrait. « Depuis la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs en mars 2023, puis l'investissement en décembre 2024 de 1,3 milliard par le fédéral pour protéger la frontière, entre guillemets, à la suite des pressions du président américain, les spécialistes de la migration multiplient les interventions pour avertir la population. » Mais sur le terrain, en se promenant dans les bois et en roulant sur les routes qui longent la frontière du Québec au Manitoba en passant par le nord-ouest de l'Ontario, on trouve bien plus que des caméras, des drones et des hélicoptères qui se sont rajoutés. Il y a d'abord une disparité entre les contrôles intensifs au Québec, où les résidents sont même incités à dénoncer toute personne suspecte, comme on a vu récemment là, en Estrie à Montérégie, et la futilité de la surveillance dans des milliers de kilomètres de frontière dans le reste du pays, donc vers l'ouest. Et plus important encore, il y a ces personnes migrantes qui sont poussées à prendre de plus en plus de risques pour faire valoir leur droit d'asile en raison de la militarisation de la frontière. Mais c'est un article qui explique beaucoup de choses. Donc, dans Pivot, les nouvelles réalités de la militarisation frontalière.
Ben merci, Mathieu.
Oui.
Ça nous donne envie de vivre.
Oui.
Oui. D'aller manifester
malgré tous les bâtons dans les roues.
Faisons du bruit. Parlant de bruit, tu nous présentes la prochaine pièce.
Ben oui, je sais pas si c'est gentil de dire que c'est du bruit, mais c'est de la musique locale en français. C'est un nom, par exemple, particulier. Hein? Mbo Flebit, quand même, le nom du projet. La pièce Silence, du mini-album J'écoute avec mes yeux, sorti en septembre dernier, là, il y a quelques semaines, sur Ambiance Ambiguë. C'est Raphaël Léveillé, son nom, c'est son projet à lui. Il est actif depuis 2018. On parle ici d'Indie Art Rock. Et il est en concert à Coup de cœur francophone le 13 novembre à l'Escogriffe. Et c'est en 26e position du palmarès local de Choc.
Je sais, je me suis fait mal avec les silences. Ah oui, c'est plus fort que moi. Je me vois en lui, puis je m'oublie. Ah non, encore. je sais, je me suis fait mal avec les silences. Ah, oui. C'est plus fort que moi, je me vois en lui, puis je m'oublie. Ah, non. Encore. Comme après une trace d'eau de l'eau, je me vois. Moi qui est
c'était en beau flébite.
La pièce Silence. On est loin du bruit.
Oui, c'est ça. Mais c'était ça un peu mon... C'était comme une blague. Oui,
une blague inversée.
Ben là, je passe en Libye, hein, parce que les exilés qui sont passés par là ont souvent accusé les milices libyennes d'être complices des trafiquants d'êtres humains dans le pays, voire d'en être eux-mêmes. Bien, figurez-vous que l'ONG de secours en mer italienne Mediterranea Saving Humans a enfin pu mettre la main sur des preuves qui vont peut-être pouvoir confirmer la véracité de ces accusations-là grâce à des photos prises par un journaliste du média italien La Repubblica qui se trouvait à bord du Mediterranea, qui est un des bateaux là de humanitaire de l'ONG. Les premières images datent du 18 août dernier. Ce jour-là, alors que l'ONG mène des opérations de surveillance en mer, son navire est entouré de quelques embarcations qui menacent l'équipage. Sur les images du photographe, on voit entre autres un bateau gonflable rapide sur lequel se trouvent des hommes en tenue militaire, dont au moins un qui porte une cagoule pour se cacher le visage. Mm-hmm. Mais plus important, un des hommes porte un écusson militaire à l'épaule. L'ONG a pu déterminer que le symbole représenté sur l'écusson est attribuable aux soldats du 84e bataillon pour les opérations spéciales de la 111e brigade. En fait, c'est dirigé par Abdou Salam al-Zoubi, qui est l'actuel sous-secrétaire et vice-ministre libyen de la Défense. Rien de moins.
Ouais.
Donc, quelques jours plus tard, sous les yeux de l'équipage du Méditerranée et dans la lumière de ses projecteurs, il y a une dizaine d'exilés kurdes qui sont jetés à l'eau depuis un bateau gonflable où se trouvent plusieurs hommes. Là, je cite le communiqué de l'ONG, vous allez voir. « Nous ne savons pas avec certitude si ce canot de type militaire était l'un de ceux qui, le lundi 18 août au matin, en formation avec sept autres embarcations transportant des miliciens armés et cagoulés, ont tenté de nous intimider en répétant « quitter la Libye ». Ce canot militaire ressemblait certainement beaucoup à ceux aperçus que nous avons photographiés et surveillés lorsqu'ils sont revenus au port d'Al-Zawiwa. » Donc là, ben pour en avoir le cœur net, Mediterranean Saving Humans a envoyé les photos et les vidéos prises ces deux jours-là au procureur de Trapani en Sicile, ainsi qu'à la Cour pénale internationale dans l'espoir là, qu'une enquête soit déclenchée. Je rappelle que depuis 2017, la Libye est le principal partenaire de l'Italie dans la lutte contre l'immigration irrégulière vers l'Europe. D'ailleurs, le 4 septembre dernier, Abdou Salam al-Zoubi, dont je vous parlais tantôt, rencontrait encore le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, pour, et je cite, « promouvoir leurs intérêts communs et renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays ». J'ai mentionné dans mon premier micro que des centaines de migrants débarqués en Grèce depuis la Libye y ont été placés en détention en vue de leur expulsion là, depuis cet été. Mm-hmm. C'est que face au renforcement des frontières au large des côtes libyennes sur le trajet vers l'Italie, la route de Tobrouk s'est développée dernièrement. Selon Frontex, le nombre d'arrivées irrégulières en Crète située à plus de 300 km de Tobrouk, qui est une ville dans l'est de la Libye, a dépassé les 10 000 depuis le début de l'année, soit près de 4 fois le total de l'année passée. La traversée de la Méditerranée centrale reste la route migratoire la plus dangereuse au monde. Entre le 1er janvier et le 13 septembre, 456 personnes y ont perdu la vie. 420 ont été portées disparues dans cette zone-là. Ça, c'est les chiffres de l'OIM. Et la majorité des migrants qui empruntent cet itinéraire-là sont originaires du Soudan ou de l'Égypte. La Libye compte des centaines de milliers de migrants soudanais qui entrent pour l'essentiel par la frontière terrestre dans la zone de Koufra, qui est dans le sud-est du pays. Je cite le HCR. Étant donné que les voies sûres et légales ne sont accessibles, qu'à un très petit nombre de personnes, la véritable solution est de mettre fin à la guerre au Soudan afin que les familles puissent rentrer chez elles en toute sécurité et ne pas entreprendre ces voyages dangereux. Fin de la citation. Au lieu de ça, la Grèce a décidé de rendre la traversée encore plus dangereuse en déployant 3 navires de guerre au large des eaux libyennes. Et là, vous allez comprendre pourquoi je reviens sur la Grèce.
Ouais, ouais.
Puis le lien avec tout ça, c'est que le gouvernement grec a aussi annoncé vouloir signer un accord avec Tripoli sur le même modèle que celui conclu en 2017 avec l'Italie, pour confier aux autorités libyennes la charge d'intercepter les exilés en mer. Ce partenariat-là a même déjà commencé à se mettre en place cet été avec les premières formations qui ont été offertes à des gardes-côtes libyens par la Grèce sur l'île de Crète. Je rappelle que selon l'OIM, toujours entre le 1er janvier et le 13 septembre, plus de 17 000 migrants ont été interceptés et ramenés en Libye depuis le début 2025, dont 1500 femmes et 586 enfants.
Ben oui, les bandits libyens, des bons partenaires, tous les rapports le prouvent. Écoute.
Ben c'est ça, tout le monde. fait que c'est ça, c'est mes petits liens là, mes sujets.
Ouais.
Alors toi, Mathieu, tu nous amènes en Palestine.
Ben oui, mais je vais commencer par l'Italie, donc on fait un lien avec ce que tu as évoqué avec la Libye. Ça brasse en Italie par rapport à la question palestinienne. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté la semaine passée dans toute l'Italie pour dénoncer le génocide à Gaza lors d'une journée de mobilisation marquée par des grèves et des blocages à l'appel de plusieurs syndicats et organisations de la société civile. Cette mobilisation se tenait le jour où plusieurs pays reconnaissaient l'État de Palestine à l'ONU. À Milan, de violents heurts ont opposé des manifestants et des policiers à la gare centrale. À Bologne, des manifestants ont bloqué une autoroute avant d'être dispersés par des canons à eau. D'autres rassemblements ont eu lieu à Turin, Florence, Naples, Bari, Palerme. À Gênes et à Livourne, des quais des ports étaient bloqués par des débardeurs. Et même des associations catholiques qui ont organisé dans la capitale italienne des veillées de solidarité et de prière en soirée. Mm. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni adopte un positionnement très prudent sur la guerre à Gaza. Rome ne veut pas reconnaître pour le moment l'État de Palestine et se montre réticente aux sanctions commerciales proposées par l'Union européenne. Mais ça va continuer à brasser en Italie. On s'en va à Gaza même. Plus de 1000 personnes ont été tuées jusqu'à présent à proximité des centres d'aide de la Gaza Humanitarian Foundation, soutenue par Israël et les États-Unis, alors qu'ils cherchaient de la nourriture selon l'ONU. Les centres d'aide sont notamment contrôlés par des membres d'un gang de motards américains islamophobes.
Super, vraiment. C'est comme tout ça dans la même phrase. C'est juste vraiment, vraiment dystopique.
Oui, oui, puis c'est pas fini. Les Infidels Motorcycle Club, qui affirment participer à une croisade contre les musulmans, a révélé la BBC. La chaîne britannique a identifié 10 membres du groupe recrutés pour travailler à Gaza, dont 7 occupent des postes de direction à la Fondation. Les membres du gang à Gaza travaillent sous la coupe de la société américaine New G Solution, l'une des deux sociétés avec Safe Reach Solutions, chargée d'assurer depuis mai dernier et le nouveau mécanisme d'aide imposé par les États-Unis et Israël, la protection physique des centres, le contrôle des fils, la gestion des checkpoints, la surveillance par drones et caméras, ainsi que l'escorte des camions d'aide. Infidels MC a été fondée par des vétérans américains de la guerre d'Irak en 2006 et ses membres se considèrent comme des croisés modernes utilisant la croix des croisés comme symbole, une référence aux chrétiens médiévaux qui ont combattu les musulmans pour le contrôle de Jérusalem.
C'est super!
Des documents consultés par la chaîne britannique montrent que UG Solution verse à chaque contractant 980$ par jour, montant qui monte à 1580$ pour les chefs d'équipe sur les sites de distribution de la Fondation. Josh Miller, chef d'équipe chef d'une équipe supervisant la sécurité à Gaza, a publié une photo d'un groupe de contractants tenant une bannière sur laquelle on lit « Make Gaza Great Again » avec le logo de l'entreprise. UG Solution a déclaré à la BBC dans le cadre de l'enquête qu'elle procède à des vérifications d'antécédents complètes avant d'employer les contractants.
Bien sûr.
Sinon, ben, au niveau culturel, le groupe Massive Attack a annoncé son refus d'être diffusé en Israël en raison de la guerre à Gaza. Il rejoint ainsi le mouvement No Music for Genocide, auquel se sont alliés les artistes canadiens Elizapi, Bad Bad Not Good et les Breastfeeders, entre autres. La formation britannique a uni sa voix à celle de quelques 400 artistes étiquettes qui demandent que leur catalogue musical soit géobloqué sur toutes les plateformes de diffusion sur le territoire israélien.
Ouais.
La formation a annoncé avoir fait une demande aussi à sa maison de disques pour que sa musique soit également retirée de Spotify dans tous les territoires à travers le monde. Elle justifie cette décision par les importants investissements du fondateur de Spotify, Daniel Ek, dans une société spécialisée dans l'intelligence artificielle militaire et les drones de combat. Des technologies que le groupe qualifie de létales et dystopiques. Le fardeau économique placé depuis longtemps par Spotify sur les artistes est désormais aggravé par un fardeau éthique et moral, a ajouté le groupe de Bristol. Mm. Parmi les autres Canadiens à avoir rejoint le mouvement, on compte Annie-Claude Deschênes, Jonathan Person, Jonah Yano, Animé et Out, ainsi que les étiquettes montréalaises Arbutus Records et Constellation Records. L'initiative a aussi rallié plusieurs artistes internationaux, de Primal Scream à King Krull, en passant par Emily and the Sniffers, Fountain D.C. et NICAP, évidemment.
Ouais.
Sinon, au niveau cinéma, dans une lettre publiée dans The Guardian, environ 1500 acteurs, réalisateurs et professionnels internationaux du cinéma, comme Olivia Colman, Javier Bardem et Mark Ruffalo, ont annoncé qu'ils arrêtaient de travailler avec les institutions cinématographiques israéliennes, accusées d'être impliquées dans le génocide à Gaza. Ce texte est également signé par le réalisateur Yorgos Lanthimos ainsi que par les actrices Ayo Edebiri et Tilda Swinton. Cette initiative, dont le groupe Filmworkers for Palestine est à l'origine, s'inspire du boycottage culturel lancé en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Elle vise concrètement à cesser la collaboration avec des festivals, des cinémas, des diffuseurs et des sociétés de production. La lettre cite par exemple le Festival du film de Jérusalem ou du documentaire de Tel Aviv qui continue de collaborer avec le gouvernement israélien. On sait qu'il y a plusieurs lettres qui ont été publiées par des personnalités pour le Festival de Venise, Festival de Cannes. Mm-hmm. Mais la surprise que j'ai eue cette semaine, c'est de voir que plus de 1200 noms du milieu culturel, dont les Canadiens Howie Mandel et Emmanuel Chikri, de même que Sharon Osbourne, ainsi que le bassiste du groupe Kiss, Jane Simmons, ont signé une lettre pour s'opposer au boycottage des institutions cinématographiques israéliennes lancées par les 1500 dont je viens de parler. Je finis avec une citation de leur lettre. Nous appelons nos collègues de l'industrie du divertissement à rejeter le boycottage discriminatoire et antisémite qui ne fait qu'entraver encore davantage le chemin vers la paix. Jane Simmons, Sharon Osbourne, hein, quand même, c'est
ouais.
Pas pire, ouais.
On va vous laisser méditer là-dessus.
Ouais. Donc, on écoute The Narrow Keys, la pièce Carpathian, comme les Carpates, là, de l'album Trunkit, sorti en juillet dernier sur les éditions Page Noire. Duo montréalais composé de Norman Araki au violon et de sa sœur Viviane à la batterie. C'est des pièces improvisées inspirées de musique traditionnelle polonaise et ukrainienne. Et pour ceux et celles qui se disent « Oui, Norman Araki, on le connaît, c'est un vieux routier de la scène musicale anarchiste montréalaise. Il est aussi auteur, chanteur et compositeur. » Donc, voilà Marie-Ève.
Super, merci. Et oui, c'est le temps des casseroles. Encore une fois, l'agenda est très chargé. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on s'organise, qu'on se mobilise pour faire changer les choses. Et donc, plutôt que de vous présenter ça seulement de façon chronologique, je me suis dit que je ferais changement. Puis j'allais regrouper ça un petit peu par événement, par thématique. Donc, sur le génocide en cours à Gaza, plusieurs types d'événements ont lieu à partir de samedi. Jour où il y a deux manifs sur Gaza, pour ouais. Gaza. À midi, d'abord, départ d'une manif à vélo au monument Georges-Étienne-Cartier du parc Jeanne-Mance à Montréal. En plus d'être en solidarité avec la Palestine, la manif est aussi en soutien aux Gaza Sunbirds, une équipe de paracyclisme fondée par des survivants de la Great March of Return. Mm-hmm. Leur mission est de soutenir des personnes amputées et de continuer à résister contre l'occupation de leurs terres. C'est organisé par Bikers for Palestine, donc à midi au monument Georges-Étienne-Cartier. Ensuite, à 14h, rendez-vous autour de la Place des Arts pour souligner 2 ans de massacre à Gaza. Je cite l'extrait de l'appel de Palestinian Youth Movement. Le 4 octobre, nous marchons pour plus de 700 jours de résistance à Gaza, où notre peuple fait face aux bombes, aux missiles et à la famine, tout en restant résilient et inébranlable. Nous marchons en sachant que les États-Unis, le Canada, l'Europe et les régimes arabes sont des partenaires du génocide. Nous marchons pour briser leur silence, leur profit et leur complicité. Enfin, la semaine prochaine ont lieu toutes sortes d'activités aussi dans le cadre de la semaine d'action en solidarité avec la Palestine, organisée par plusieurs groupes. Il va y avoir des ateliers, des conférences, des soirées de projection et de discussion, et aussi plusieurs manifs et rassemblements le 7 octobre même.
Oui.
Je vous invite à visiter le site de la Convergence des luttes anticapitalistes pour la liste et les détails. Le site, c'est clac-montréal, sans accent évidemment, .net, et pour le vous ajoutez une barre oblique semaine pour avoir tout le calendrier. Vous allez aussi y trouver les événements organisés à l'extérieur de Montréal. Sur la question de la crise du logement et de l'itinérance, d'abord, le FRAPRU organise une grandiose manif action ce samedi 4 octobre à 13h. Et pas n'importe où, hein, à l'Île des Sœurs. Pourquoi? Parce que, selon les mots du FRAPRU, l'Île des Sœurs, c'est le paradis de la financiarisation. Et les revendications, ben, que le gouvernement, un, finance assez de logements sociaux partout au Québec, mette sur pied, un, ou des programmes dédiés au logement social, et trois, protège les terrains disponibles pour des logements sociaux répondant aux besoins des communautés. Donc, c'est à l'Île des Sœurs, au parc d'An Hanganou, ou le parc Elgar, là, je pense qu'il est connu sous deux noms. L'adresse, en tout cas, c'est le 260 rue Elgar à l'Île-des-Sœurs.
Dans l'arrondissement Verdun.
Oui, c'est peut-être selon l'arrondissement regarde là, peut-être le nom. Sur la même thématique, le 17 octobre va se tenir la 36e édition de la Nuit des sans-abris, qui sera soulignée dans plusieurs villes au Québec. À Montréal, ça se passe d'abord au métro Mont-Royal, d'où va partir à 17h une marche de solidarité vers la place Émilie-Gamelin, pardon, où se déroulera le reste des activités. Pour toutes les informations sur les autres villes au Québec qui participent, visitez le site du réseau Solidarité Itinérance du Québec qui chapeaute l'initiative. J'ai du temps encore, ouais.
Oui, vas-y.
Je termine avec deux autres mobilisations concernant des enjeux différents. D'abord, dimanche, le 19 octobre, Solidarité sans frontières appelle à une marche des prisonniers-prisonnières. Pourquoi ce titre? Je vais vous l'expliquer en citant l'appel de Solidarité sans frontières. les sans-papiers et toutes les personnes qui ont un statut d'immigration précaire sont prisonnières au Canada. Elles ne peuvent pas partir ni travailler de façon légale. Elles sont exploitées sur leur lieu de travail. Elles sont constamment menacées de détention arbitraire. Elles sont ici parce que le Canada et d'autres pays occidentaux riches ont rendu leur foyer invivable. Elles sont ici aspirant à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Elles sont confrontées à la violence bureaucratique et juridique du Canada, mais luttent dans la dignité et la résilience. Les revendications de la marche sont claires. Régularisation immédiate de toutes les personnes migrantes au Canada, le retrait du projet de loi 6C2 et le retrait de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, le rendez-vous, je vous le rappelle, 19 octobre à 15h au Métroparc à Montréal. Et enfin, le samedi 18 octobre, les féministes débarquent en force à Québec dans le cadre de la 6e action internationale de la Marche mondiale des femmes. L'objectif, ben, c'est de se mobiliser collectivement contre la pauvreté, les violences faites aux femmes, la crise environnementale et aussi pour une vision d'un monde plus juste, solidaire et féministe. La marche part à midi devant l'Assemblée nationale, mais il y a des activités toute la journée à partir de 10h jusque tard en soirée. Donc, tapez Marche mondiale des femmes 2025 là, dans un moteur de recherche, puis vous allez trouver facilement tous les détails. C'est le moment de se dire au revoir et non pas adieu. Au revoir et merci. Merci d'abord à vous, chers auditeurs et auditrices, que vous soyez des fidèles de l'émission ou que ce soit votre première écoute. Merci à toi, Mathieu, qui a assuré la co-animation à mes côtés avec brio.
Ben oui, merci à toi, Marie-Ève, pour tes super contenus et ta super régie.
Je vous rappelle que nos balados sont disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore au www.apatridesanonymes.info. Écrivez-nous à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivez notre page Facebook. On essaie de relayer le plus d'informations possible pour vous garder bien allumé entre nos émissions. Mathieu?
Oui, oui, dont l'agenda, évidemment.
Bien sûr.
Ben oui.
Et d'ailleurs, parlant d'émissions, il se pourrait qu'on fasse relâche pour la prochaine. Donc, on risque de se retrouver seulement la veille de l'Halloween.
Oh, OK.
On va se laisser en musique avec une pièce du duo électro-expérimental formé de Rachika Nayar et Nina Keith, qui sont basés à Brooklyn. Leur album Disney Blood est paru cet été et occupe la 3e position du palmarès international de choc. On va écouter la pièce It's Change, qui est une collaboration avec trois autres artistes. La chanteuse Willie Siegel, j'ai fait mes petites recherches, c'est une ex-ponytail.
OK, et les c'est ça, je ne connais pas, fait que, ouais, c'est bon, merci c'est pour ça. La référence. Ouais.
Les musiciennes Katie Day et Juliana Barwick, j'ai aussi fait des recherches, mais comme ça ne me disait rien, je me suis dit que je ne dirais rien.
OK, c'est des membres du groupe, OK.
Donc, non, c'est pas des membres du groupe, c'est une collaboration spéciale pour cette pièce-là,
ouais.
Qui s'appelle It's Change avec Rachika Nayar et Nina Keith.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
the calm today, not far.